It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
I went to the crossroads, fell down on my knees. I went to the crossroads.
Nous venons d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec un grand classique de l'histoire du blues, Crossroad Blues, immortalisé par le regretté Robert Johnson, dont on parlera beaucoup cette année à l'occasion du 110e anniversaire de sa naissance. D'ailleurs, plusieurs ouvrages reviennent sur sa destinée. D'abord, Growing Up with Robert Johnson, par la demi-sœur du guitariste, Annie C. Anderson, mais aussi Le Diable a surgi, de Bruce Comfort et Gail Dean Wardlow, et enfin, La Ballade de Robert Johnson, aux éditions Le Mot et le Reste, signé Jonathan Godet, qui est avec nous depuis le Surrey, en Angleterre, pour évoquer l'épopée de Robert Johnson. Merci d'être avec nous.
C'est un plaisir, Joe, bonjour.
Nous avons souhaité converser avec vous, car contrairement aux autres livres parus récemment, vous avez choisi la voie romanesque, plutôt que de conter de manière biographique l'aventure humaine et musicale de Robert Johnson. Pourquoi ?
D'abord, moi je suis un romancier, je ne suis pas un spécialiste du blues, même si c'est une musique qui m'a accompagné depuis toujours. Et puis, mon intention était de faire revivre le personnage qui était Robert Johnson. Je voulais vraiment le faire sentir, qu'on entende sa voix, qu'on imagine ses mouvements, presque à la façon d'un film en fait. Et pour moi, la voix romanesque était la meilleure.
Vous avez en tout cas réussi à scénariser la vie de Robert Johnson grâce à votre style très vif. Et toutes ces scènes qui se lisent comme les différents tableaux d'un film, c'était votre intention, créer des images?
Tout à fait. Il y avait pour moi des moments importants à côté desquels il fallait pas passer. Par exemple, le moment où il va enregistrer ses chansons, ou alors il va rencontrer sa femme, sa mort aussi. Donc, tous ces tableaux m'ont servi à structurer mon récit et à vraiment montrer la personne de Robert Johnson.
Le premier chapitre et le dernier se rejoignent puisqu'ils évoquent la disparition de Robert Johnson à 27 ans en 1938, alors qu'il est sur le point d'accéder à une notoriété nationale américaine. Comment avez-vous travaillé pour restituer l'effroi de John Hammond, le producteur du spectacle qui allait révéler Robert Johnson au grand public? Est-ce que vous avez épluché des tonnes de journaux d'époque, écouté de vieux enregistrements? Comment avez-vous procédé?
Je suis content que vous mentionniez les enregistrements parce qu'ils existent, les enregistrements de Carnegie Hall où John Hammond a organisé son concert From Spiritual to Swing. Mais oui, je me suis beaucoup documenté, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver. Il y a eu beaucoup d'articles de journaux qui sont parus à l'époque sur ce concert qui a réuni des artistes hallucinants, en fait. Il y a Big Bill Brunsey qui a pris la place de Robert Johnson, rien de moins. Donc, pour essayer de restituer cette atmosphère particulière du New York des années 30, de la fin des années 30, je me suis beaucoup documenté, j'ai retrouvé des extraits de journaux d'époque, j'ai écouté des enregistrements, j'ai beaucoup fouillé la biographie de John Hammond, qui lui-même mériterait d'être l'objet d'un roman. Il a découvert des talents incroyables. Je pense à Bob Dylan, à Billie Holiday, à Count Basie, qu'on retrouve dans le roman aussi. Donc, tout ça ensemble a fait que, pour moi, c'était le moment parfait pour commencer et, comme vous l'avez dit, pour terminer le roman, pour effectuer une boucle entre début et fin.
Tout au long de votre récit, on chemine comme Robert Johnson dans l'Amérique noire des années 20 et 30, et l'on rencontre de nombreux personnages, de Son House à Sonny Boy Williamson. Au-delà de la carrière musicale très brève de Robert Johnson, est-ce que vous avez tenté de nous éclairer sur la condition des Afro-Américains il y a un siècle dans le sud des États-Unis ?
C'est une bonne question. C'était pas mon intention première, mais j'avais une intention similaire. C'était celle de restituer le climat qui régnait dans le sud des États-Unis, mais à travers cette musique particulière qui est le blues. Je voulais que ça soit un roman à plusieurs voix. Vous avez mentionné Sonny Boy Williamson il y a une seconde. C'est une des voix marquantes du blues de l'entre-deux-guerres, même si sa carrière s'est étirée plus longtemps. Mais c'était mon intention, c'était de restituer toutes ces voix individuelles de ces musiciens noirs, mais aussi les gens qui gravitaient dans leur orbite. Je pense à H.C. Spears, qui est l'homme qui a découvert tous ses talents depuis sa boutique de disques où il encourageait les musiciens à venir chez lui, à essayer des instruments, mais aussi à enregistrer les titres. Et lui, il repassait ensuite ses artistes aux grandes compagnies comme ARC ou Columbia par la suite. Donc c'était ça mon intention, c'était de recréer toute cette atmosphère particulière de l'entre-deux-guerres dans le sud des États-Unis.
Et en même temps, la condition des Afro-Américains, c'est un aspect social essentiel pour comprendre la vie de Robert Johnson.
Ouais, tout à fait. Je sais pas si vous l'avez en mémoire, mais il y a un chapitre où Robert Johnson, avec sa jeune femme et puis son beau-frère, je pense, roule en voiture dans la fameuse Stairplane, qui est un modèle de voiture de ces années 30.
Oui.
Et puis, ils se font arrêter par un policier blanc qui leur demande de sortir du véhicule, puis qui les traite avec condescendance, avec beaucoup d'agressivité. Et cette scène que j'ai imaginée, que j'ai voulu réaliste, ben on retrouve un écho dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, il y a un lien entre ce roman, mais aussi avec l'actualité qu'on est en train de vivre.
Ça veut dire qu'il y a une forme d'activisme de votre part lorsque vous décrivez le quotidien désastreux des Noirs américains au début du XXe siècle?
J'irai pas si loin jusqu'à parler d'activisme, mais c'est quelque chose que j'avais à l'esprit, c'est certain.
Je vous propose, Jonathan Godet, de nous arrêter sur quelques images que vous suscitez dans notre esprit. Je suis même allé voir sur YouTube pour vérifier qu'elles existaient vraiment, comme cette apparition télé d'un pionnier du blues, le chanteur et guitariste Son House, dans l'émission Camera 3 de CBS. Écoutons cela et parlons-en juste après.
Out down the road. I said, when I got there, she's laying on a cooling board. You know, I walked up close, looked down in her face. It's a good old girl, got the lay and a judgment day. I said, I walked up close, and I said, I looked down in her face.
Quelques notes de Death Letter Blues par Son House devant les caméras de CBS dans le cadre de l'émission Camera 3. Et dans votre livre, Jonathan Godet, vous lui faites dire des choses que je n'ai pas retrouvées dans l'archive vidéo et notamment sa rencontre avec Robert Johnson. Est-ce que vous avez romancé ce passage où Son House encourage Robert Johnson à abandonner la guitare ?
Non, c'était romancé, c'est certain, mais comme tout le reste du livre, j'ai voulu avoir des assises solides. Donc quand je romançais un dialogue, quand j'imaginais une discussion entre deux personnages, je voulais m'assurer que le ton était bon, mais surtout que ce qui était dit était juste. Donc je voulais pas faire d'impair, faire dire à un personnage quelque chose qui aurait pu être éventuellement contraire à ce qu'il aurait pu penser. Donc, dans certaines entrevues que j'ai lues ou que j'ai regardées sur YouTube, on a Sunhouse qui parle de sa rencontre avec Robert Johnson et puis qui le décrit comme un très, très mauvais guitariste, en fait. Quand il l'a rencontré, Robert Johnson, c'était un jeune, il était au sortir de l'adolescence, il jouait de l'harmonica, il était très bon, paraît-il, à l'harmonica, mais côté guitare, c'était un désastre, il paraît. Et Sunhouse lui a dit, bah, écoute, mon vieux, peut-être que tu serais mieux de te concentrer sur autre chose, laisse la guitare et puis on verra, tu vois. C'était un peu un emmerdeur, je pense, Robert Johnson. Il allait toujours coller au basque de Sunhouse et puis de Willie Brown. Il collait à leurs concerts, tu vois, puis je pense qu'il les embêtait un peu, non?
Robert Johnson, en tout cas, a bien fait de ne pas suivre les conseils de Sunhouse puisqu'il est devenu un incroyable musicien. Vous le présentez comme une forte tête, un jeune homme qui refuse l'autorité, les contraintes sociales. Ce portrait que vous dessinez de lui repose sur des faits réels ou votre désir de lui donner, on va dire, une personnalité rebelle?
Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense que je me suis approprié le personnage de Robert Johnson et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que ce livre est un roman. Donc, c'est une vision particulière de Robert Johnson, ma vision de lui. Mais je pense que malgré tout, c'était un jeune homme qui voulait réussir, qui voulait faire de l'argent, qui voulait être connu, qui voulait devenir célèbre par sa musique. Je pense que c'était un homme passionné de musique, qui avait un talent réel pour son instrument, mais aussi pour le chant, pour la musique en général. Et je pense qu'il voulait réussir surtout. Et de l'avoir peint avec une forte tête, avec cette ambition de réussite, ben, je pense que ça collait avec la vision que moi je me suis fait de Robert Johnson.
Que ce soit à l'école ou dans les champs de coton, il s'oppose à tous les diktats de la société américaine de l'époque. Diriez-vous qu'il était un jeune inconscient, un jouisseur, un indomptable?
Je le vois surtout comme un gars ordinaire, en fait, mais qui était doué d'un talent très spécial pour la musique. Il y a beaucoup d'anecdotes qui racontent qu'il pouvait, comme Mozart, entendre une chanson une fois, puis pouvoir la restituer. Je pense pas qu'il y ait ce côté contestataire social avec Robert Johnson. Je pense que c'est quelqu'un qui était très ancré dans son milieu. Même s'il a beaucoup voyagé, il est toujours revenu dans le sud des États-Unis. Il a fait des concerts à New York. Il paraît qu'il est même venu jusqu'au Canada, à Ottawa, pour faire des concerts. Mais à chaque fois, il a, d'une certaine façon, refusé ce succès possible. Il est toujours revenu à ses racines, toujours revenu dans le sud des États-Unis. Je pense qu'il était très attaché à cette culture du delta du Mississippi qu'il a connue enfant. Et puis, c'était très difficile pour lui de se détacher de cette culture.
C'était aussi un bourreau des cœurs, et d'ailleurs plusieurs chapitres de votre livre évoquent ses relations fiévreuses avec toutes celles qui accompagnent son existence, de Virginia à Gloria. Il faut préciser que tous les titres des chansons de Robert Johnson ponctuent chaque chapitre de votre roman, dont ce « Kind-Hearted Woman Blues » enregistré le 23 novembre 1936 à San Antonio, que nous allons écouter immédiatement. Kind-Hearted Woman, un titre que vous reliez, Jonathan Godet, à sa rencontre avec Virginia, sa jeune épouse, à qui vous consacrez les deux chapitres suivants. Et pour cause, cette belle idylle se transformera en drame absolu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé le 10 avril 1930 ?
D'accord, alors Robert Johnson a rencontré une jeune fille qui s'appelait Virginia. Il est tombé amoureux d'elle. Elle était un peu plus jeune que lui. Je pense qu'il avait 19 ans alors qu'elle en avait 16. Ils se sont mariés et je pense que ça a été un essai pour Robert Johnson de vivre une vie conventionnelle, même si la musique était toujours là. Il jouait dans des fêtes de maison qu'on appelait à l'époque et il avait un travail dans une plantation. Et sa femme, Virginia, est tombée enceinte. Mais malheureusement, elle est décédée, ainsi que l'enfant qu'elle portait. Et il y a plusieurs commentateurs de la vie de Robert Johnson qui ont dit que cet élément aurait agi comme un catalyseur, qu'il aurait lancé sur les routes, qu'il aurait abandonné toutes ses velléités de vie traditionnelle et conventionnelle pour devenir un musicien itinérant. Donc c'était un événement charnière dans la vie de Robert Johnson.
Diriez-vous que l'enfance malmenée de Robert Johnson, l'absence du père, les familles recomposées, le contexte de misère sociale de l'époque ont accéléré sa destinée, comme s'il savait qu'il devait vivre à 100 km/h et brûler les étapes?
Ah, c'est très possible. Robert Johnson a beaucoup de difficultés à s'identifier lui-même. Lorsqu'il était en tournée, il utilisait plusieurs noms. Il s'est identifié d'abord comme Robert Johnson, mais il en utilisait d'autres, comme Robert Sachs ou Robert James et plusieurs autres. Donc, il y a plein de gens qui le connaissent sous un autre pseudonyme.
Robert Spencer.
Vous parliez de Spencer, voilà, c'était le nom du mari de sa mère. Donc, sa mère a eu une aventure avec un autre homme.
Donc, son beau-père.
Tandis que son premier mari l'avait quitté. Cet autre homme s'appelait Noah Johnson. Et l'enfant qui est né était bien sûr Robert. Mais Robert Johnson est allé vivre pendant longtemps à Memphis. C'est une vraie telenovela, tout ça. Pendant des années, donc, il a été élevé à Memphis dans un contexte urbain, avant de revenir vivre avec sa mère dans un contexte beaucoup plus rural, dans le Mississippi, sur une plantation. Donc, toutes ces allées et venues entre différentes familles, je pense qu'ont eu un grand impact sur lui et sur sa personnalité.
Une autre femme a provoqué sa fin inéluctable, c'est Gloria. Qui était-elle et pourquoi fut-elle indirectement responsable de son décès à 27 ans?
Alors là, d'abord, il faut que je dise que le nom de Gloria, il est né de mon imagination.
Très bien.
C'est la partie du roman, peut-être, qui est la plus tributaire de mon imagination. Il y a plusieurs chercheurs qui ont cherché à savoir qui avait assassiné Robert Johnson, comment il l'avait assassiné, pourquoi. Et il y a plusieurs théories qui flottent un peu partout sur Internet. Ça dépend à qui on demande et on a une théorie différente. Alors moi, j'ai essayé de rassembler ces différentes théories puis d'essayer de trouver une hypothèse plausible. Et j'ai imaginé cette femme qui s'appelle Gloria, que Robert Johnson aurait rencontrée. Et bien sûr, cette femme était mariée avec un propriétaire de Juke Joint, qui était les espèces de cabarets, de bars à l'époque où les musiciens allaient jouer. Et puis Robert Johnson aurait eu une aventure avec cette Gloria. Le mari jaloux aurait voulu se venger et il aurait empoisonné Robert Johnson.
On ne saura jamais si le titre « Love in Vain » évoquait sa liaison avec cette Gloria inventée, mais c'est la chanson que vous associez à cet épisode fatal de sa destinée.
And I followed her to the station with my suitcase in my hand. And I followed her to the station, the suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, when all your love's in vain, all your love's in vain. And the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I felt lonesome, I was lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain. When the train, it left the station, with two lights on behind. When the train and left the station with two two lights on behind. Well, the blue light was my blues, and the red light was my mind. All my love's in vain.
Love in Vain, un titre enregistré à Dallas le 20 juin 1937 et moult fois repris par des artistes aussi divers que les Rolling Stones ou Eric Clapton, entre autres, comme vous me le disiez hors antenne tout à l'heure, Jonathan Godet. Robert Johnson aura laissé 29 chansons pour la postérité et vous décrivez avec force détail les sessions de studio rudimentaires de l'époque. Vous laissez entendre qu'après une ou deux tentatives, Robert Johnson avait enregistré ses 29 compositions avec beaucoup d'assurance. Sur quoi repose votre sentiment, vos convictions ou des documents que vous avez consultés?
Un peu des deux, je dirais. Il y a eu deux sessions d'enregistrement, une en 1936 à San Antonio et l'autre en 1937 à Dallas, donc les deux au Texas. Et c'était le même producteur les deux fois, qui s'appelle Don Law. Et Don Law a beaucoup parlé du processus d'enregistrement avec Robert Johnson. Il le décrivait comme un garçon tranquille et assez sage, ce qui choque un peu avec l'image traditionnelle qu'on a de Robert Johnson. Il y a aussi un autre commentateur qui s'appelle Elijah Wald, qui a beaucoup analysé ces deux sessions d'enregistrement. Il voyait quelques différences entre les deux. Donc, dans la première, on voyait Robert Johnson qui enregistre pour la première fois, donc un jeune homme nerveux qu'on imagine un peu mal à l'aise dans un studio d'enregistrement. Et puis, il a toujours enregistré deux fois la même chanson pour avoir une version de sécurité, si jamais il y avait un problème avec une des deux autres. Et c'est dans cette première session d'enregistrement qu'on voit le plus de différence entre les deux versions qu'il a enregistrées. Au contraire, dans la deuxième session d'enregistrement à Dallas, ben là, il est beaucoup plus assuré. Hein? Là, ça fait un an qu'il bourlingue, il a eu un hit record avec Terraplane Blues, et puis là, il est en confiance, puis on le sent bien, et certains de ses morceaux les plus emblématiques ont été enregistrés à Dallas. Donc, c'est un peu des deux. Je dirais qu'il était un peu mal à l'aise la première fois, mais beaucoup plus assuré la deuxième fois.
Quoi qu'il en soit, on imagine très bien les studios, le premier disque test en métal, les 3 minutes maximum d'enregistrement liées aux contraintes techniques de l'époque et les exigences du producteur. Est-ce que vous avez pensé à contacter un cinéaste pour mettre votre livre à l'écran?
Ah ben ça serait bien, hein. Je pense que c'est le rêve de tout auteur de voir son bouquin sur le grand écran, ça serait pas mal. Je me vois mal avoir les contacts pour faire appel moi-même directement, mais pourquoi pas, hein. Si la porte s'ouvre, je vais y aller.
Écoutez, je vous transmettrai le numéro de téléphone personnel de Martin Scorsese et je pense que vous pourrez vous entendre.
Ouais, c'est son genre ça en plus à Martin.
Absolument, il aime beaucoup le blues et le jazz, absolument. Ce serait sûrement en tout cas une belle manière de redécouvrir l'épopée de Robert Johnson. Je pense d'ailleurs que la dernière image, le concert à Carnegie Hall à New York, entrecoupé par les songes de Robert Johnson, qui ne se produira finalement jamais sur cette scène prestigieuse, pourrait donner à l'écran un moment très émouvant et peut-être aussi très éclairant sur la place de la musique noire dans l'Amérique des années 30. Qu'en pensez-vous, Jonathan Godet ?
Tout à fait. Je pense que le concert de John Hammond a marqué d'une pierre blanche toute la musique noire américaine. C'est à partir de ce moment qu'on a eu les premiers orchestres intégrés, comme je traduis mal de l'anglais, mais les orchestres où on avait des noirs et des blancs qui jouaient sur la même scène dans le même groupe. Donc ce concert a été important pour la musique noire aux États-Unis. Mais c'est paradoxal parce que Robert Johnson a eu une influence assez limitée sur la musique noire. L'héritage qu'il a laissé a été saisi par les musiciens blancs, particulièrement dans le revival des années 60. Je pense à des musiciens comme Eric Clapton ou Keith Richards qui ont écouté Robert Johnson et qui ont adoré, qui ont essayé de le copier, qui ont parlé de lui. Et Robert Johnson est vite devenu un artiste prisé par les blancs dans les années 60, 70, etc. Donc l'impact qu'il a eu sur la communauté musicale noire est limité. Mais au contraire, son apport au blues en général est incalculable.
Rappelons, vous le disiez en début d'émission, que Robert Johnson fut remplacé par Big Bill Bronzy lors de cette soirée intitulée From Spirituals to Swing et qui fut éditée en vinyle en 1958. En voici la preuve.
Just a dream I heard all my
Big Bill Bronzy et Albert Ammons en décembre 1938 à Carnegie Hall, c'était It Was Just a Dream, un titre qui résume presque la destinée de Robert Johnson, aussi furtive qu'impalpable. C'est en tout cas le sentiment que l'on éprouve à la fin de votre roman, Jonathan Godet. Robert Johnson fut une comète, une énigme, comme un rêve fugace qui continue malgré tout à susciter bien des commentaires. Est-ce que vous pensez avoir définitivement cerné le personnage ?
Non, je pense pas du tout. Avec un personnage comme Robert Johnson, il y a toujours quelque chose à dire. La preuve en est qu'il y a énormément de livres qui sont publiés presque chaque année sur lui. Il y en a un qui a été publié il y a 2 ans, Up Jump the Devil, qui se présente comme la biographie officielle de Robert Johnson, donc un livre de référence. Côté musical, ben là, c'est d'une richesse, à mon avis, inouïe. On a un homme avec une guitare devant un micro, et pourtant, sa façon de jouer, le sentiment qu'il provoque, ben, sont d'une richesse, à mon avis, inégalable. C'est magnifique de l'entendre jouer.
Et on en parle encore 110 ans après sa naissance. Est-ce que vous vous êtes rendu sur place dans le Mississippi ?
Ouais, j'ai habité 2 ans en Louisiane et c'était à l'époque de l'ouragan Katrina. Et puis, juste une anecdote, donc je revenais de voyage au Mexique et puis en revenant, j'ai des petits problèmes de visa. Alors, les autorités américaines m'ont envoyé à la Nouvelle-Orléans pour faire arranger tout ça, sauf que le bureau de Nouvelle-Orléans était fermé. J'ai donc dû aller à un autre bureau qui se trouvait à Memphis. Et puis j'en ai profité, j'ai pris ma voiture, j'ai pris la route 61 le long du Mississippi et je me suis arrêté dans presque chaque bled qui sont mentionnés dans les chansons de blues de l'entre-deux-guerres. Donc c'était un voyage inoubliable pour moi. Et puis une fois à Memphis, Robert Johnson a vécu à Memphis, donc ça a été l'occasion de marcher sur ses traces, d'une certaine façon.
Ce fut en tout cas un bonheur d'évoquer cette destinée avec vous et je recommande vivement à nos auditeurs de lire votre roman, La Ballade de Robert Johnson, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Félicitations, Jonathan Godet.
Encore merci pour cette belle invitation.
C'est un plaisir. Et la prochaine fois, on se retrouvera ici en studio à Paris pour deviser allègrement sur votre prochain livre, d'accord ?
Oh, ça serait bien, ça serait bien ça.
L'émission du jour était réalisée par une lectrice convaincue, Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.